bienvenue pour cette exploration de sources. Aujourd'hui, on fait un vrai bond dans le passé avec un numéro hors série de Science et Vie, mars 1973, le titre « L'informatique 73 ».
Ah oui, fascinant.
On va plonger dans une époque où l'ordinateur, bon, il était déjà puissant, mais il gardait un côté assez mystérieux, hein, et il commençait tout juste à transformer le monde du travail, la société.
Exactement. Et notre objectif, en feuilletant ce magazine, c'est vraiment de saisir comment on percevait l'informatique il y a plus de 50 ans. C'était quoi les grands systèmes, les applications, et puis les espoirs, et déjà les craintes.
Parfait. Alors, allons-y, déchiffrons ensemble ce que ce numéro de 73 nous raconte. Commençons peut-être par les machines elles-mêmes. On y parle beaucoup des grands systèmes.
Oui, des noms comme Honeywell Bull, CDC, IBM, ça revient souvent. Faut imaginer des machines qui prenaient des salles entières.
Carrément, des salles.
Oui, mais capables de traiter des millions d'instructions par seconde. C'était colossal pour l'époque. Elles servaient pour des calculs très complexes, comme ceux de la CISI, une filiale du CEA, ou alors pour piloter des choses comme le trafic aérien, le système MADAP, par exemple.
Donc des mastodontes centralisés. Mais le magazine y montre aussi qu'il y avait l'autre bout du spectre qui commençait à apparaître.
Oui.
Les fameuses ordinateurs de bureau.
Tout à fait. On voit des marques comme Nixdorf, le Gabax, qui proposaient des machines plus petites, disons, plus accessibles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on sent déjà cette tension qui existe toujours un peu d'ailleurs entre la puissance centralisée et puis la promesse d'une informatique plus proche de l'utilisateur.
Une sorte de démocratisation annoncée ?
C'est ça. Le magazine sentait bien qu'il y avait un potentiel de marché énorme en France pour ces machines-là.
D'accord. Et comment on faisait pour parler à ces machines, qu'elles soient géantes ou plus petites ? J'imagine les cartes perforées ?
Ah ben oui, c'était encore très présent. Les cartes perforées, les bandes magnétiques, les téléscripteurs, les écrans, ça a commencé tout juste.
À peine.
Oui.
Et la saisie des données, c'était un vrai boulot, un défi logistique, parfois même un frein. Hein. C'est un aspect très concret de l'informatique de l'époque qu'on oublie un peu aujourd'hui.
Et au-delà du matériel, le hardware, il y a l'immatériel, le software. Le magazine en parle comment ? De cette matière grise, comme ils disent. Il les décrit comme absolument essentiel, mais aussi comme quelque chose de complexe et de cher. C'est à ce moment-là que des langages qu'on connaît encore, enfin dont on entend encore parler, se consolident. COBOL pour tout ce qui est gestion.
Ah oui, le fameux COBOL.
Et Fortran pour le calcul scientifique. Et puis, bien sûr, les systèmes d'exploitation qui commençaient à organiser tout ça. Le logiciel s'était déjà vu comme stratégique, pas juste un accessoire.
Et les applications concrètes, ça allait plus loin que la simple gestion ou le calcul, c'est ça ? J'ai cru voir des choses assez étonnantes.
Oh oui, et c'est là que ça devient parfois surprenant. On parle d'aide à la conception architecturale, pour calculer des structures complexes comme des dômes.
Des dômes ?
Comme à Florence. Il cite l'exemple d'un calcul pour un dôme à Florence et aussi à Islamabad. Ou alors la documentation automatisée pour l'industrie textile, un système appelé Titus. Ils envisageaient même la surveillance de l'environnement.
C'est assez visionnaire quand on y pense. Et il y avait des usages encore plus inattendus.
Carrément. Le magazine mentionne la création artistique assistée par ordinateur.
Déjà ?
Oui, avec des noms comme John Whitney, Klaus Bass. Et puis à cette étude incroyable sur l'odorat du poisson-chat.
Pardon ? L'odorat du poisson-chat ?
Oui, avec un ordinateur qui analyse les signaux cérébraux via des électrodes. Bon, ça montre une curiosité scientifique qui allait bien au-delà des besoins immédiats de l'industrie, quoi.
Une vraie effervescence créative, en fait. Mais avec aussi une certaine lucidité sur ce qui était possible ou pas.
Oui, l'enthousiasme est là, c'est sûr. Cette idée que l'ordinateur peut tout faire, elle transparaît. Mais le magazine reste assez pragmatique. Par exemple, la traduction automatique. En 1973, ils disent bien que c'est encore très, très difficile.
D'accord.
Donc, il y a un équilibre entre la vision, les possibilités, et puis la réalité technique du moment.
Et tout ça, quel impact ça avait ou quel impact on pensait que ça aurait sur la société, sur l'économie ? Le magazine semble sentir un vrai tournant.
Clairement. L'informatique est vraiment présentée comme un moteur économique et aussi comme un créateur d'emplois. On voit des publicités pour des formations. UniEco, l'école universelle.
Ah oui, les carrières du futur.
Voilà, c'est ça. Les carrières du futur, ça montre bien l'espoir économique placé dedans.
Et avec une dimension géopolitique déjà très présente, j'imagine.
Absolument. La domination américaine, surtout IBM, ils avaient presque 65% du marché mondial en 71. C'est énorme.
Ah oui, quand même, hein.
Mais l'Europe essaye de réagir. On voit des acteurs comme Siemens, la CI en France, Philips aussi qui fait une pub pour dire « En gros, attention, l'informatique, c'est pas que les Américains ».
Une bataille économique qui commençait. Et puis, il y a cette question qui est frappante aujourd'hui, celle des banques de données. Le titre d'un article, c'est « Au service de l'homme ou contre lui ».
C'est incroyable de voir ça, hein. À quel point cette inquiétude pour la vie privée, pour le contrôle des informations perso, elle émergeait déjà très clairement. On est vraiment au tout début de ce qu'ils appellent la téléinformatique, l'ancêtre des réseaux.
Comme le réseau caducé en France ?
Oui, par exemple. Et déjà cette interrogation sur les risques de la centralisation des données, c'était déjà là.
Ce retour en 1973 est vraiment saisissant. Ça nous montre une informatique en pleine ébullition, qui devient centrale pour l'économie, avec des usages de plus en plus variés.
Exactement. Mais c'est aussi une époque de prise de conscience des enjeux pour la société. Le pouvoir de l'info, la place de l'humain face à la machine, ces grands débats, ils étaient déjà là, sous une forme un peu différente, mais bien réelle.
On voit vraiment les fondations de notre présent numérique. L'importance du logiciel, les métiers dédiés, l'arrivée annoncée des terminaux partout, et ces questions sur les données qui n'ont fait que grandir depuis.
En fait, ce qui ressort, je trouve, c'est cette tension constante. Entre d'un côté l'émerveillement face à ce que la machine peut faire et de l'autre la conscience des défis techniques, économiques, éthiques. Et 50 ans plus tard, ben, la question reste un peu entière, non ? Est-ce qu'on a vraiment appris à maîtriser cette complexité que l'informatique amenait déjà ou est-ce qu'on court toujours après ces possibilités qui semblent infinies ?